dans Matthieu chapitre 5, verset 5, Matthieu chapitre 5, verset 5, on va reprendre cette parole du Seigneur dans le sermon sur la montagne, chapitre 5, verset 5, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Amen. Ça a été aussi traduit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Et le mot original veut dire effectivement doux, docile. Donc c'est pour ça que ça peut aussi se traduire par humble, parce que comme il y a ces deux directions dans le mot original, cette traduction a préféré de donner un terme qui est plus global, plus général, l'humilité. Mais littéralement, doux, docile. Heureux celui qui est doux. C'est pas un message qu'on entend aujourd'hui dans notre monde. Heureux plutôt celui qui est fort, qui parfois est rude, ne se laisse pas faire. Mais le sermon sur la montagne, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'en haut. Et d'ailleurs, même les commentaires évangéliques ne sont pas tous d'accord. Vous avez plusieurs façons d'aborder ce passage. J'ai même côtoyé des collègues qui étaient persuadés que le sermon sur la montagne ne concernait pas l'Église maintenant, tant son exigence morale et spirituelle était élevée, mais était une sorte de charte du royaume des cieux pour la vie à venir. Tellement effectivement, ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, personne d'autre ne l'a dit ni ne pouvait le dire. En réalité, c'est bien pour l'Église, c'est bien pour nous que ce message est donné, ce message de Jésus-Christ. Mais c'est vrai, impossible de le vivre par nous-mêmes. Il faut l'Esprit d'en haut pour vivre l'enseignement d'en haut. Amen. La débonnarité. On va commencer par le contraire. Le contraire de ce qui est doux, c'est la brutalité, c'est la violence. Et ça, de plus en plus. Une fois, j'avais lu un article qui comptabilisait, totalisait le nombre de crimes, de viols, d'atrocités que les gens ont vus dans leur vie avec la télévision. C'est impressionnant. Et j'ai lu cet article il y a longtemps, c'était avant Netflix, ça n'existait pas. Aujourd'hui, l'homme mange, boit de la violence, constamment. Les jeux vidéo de nos enfants même sont très violents. La petite anecdote, pour voir la différence de génération, je ne sais pas si vous connaissez Kung Fu Panda, ce n'est pas très spirituel, vous allez me dire. Hein. La grand-mère de ma femme, une fois, elle a vu ça, les enfants regardaient. Elle était choquée. Elle dit, c'est très violent. Heureusement qu'elle n'a pas vu d'autres dessins animés. Mais c'est pour vous dire le décalage générationnel. On s'est habitué à une telle violence qu'elle ne paraît plus vraiment ce qu'elle est. Sans parler de la violence verbale. Les gens ne se parlent plus, ils s'aboient dessus. Hein? Et la brutalité, pas seulement dans les mots, on peut en voir être très poli et avoir de bons mots, mais on peut quand même être dur dans nos propos, intransigeants. La violence, c'est le contraire de la douceur. Un chrétien n'est pas violent. Un chrétien n'est pas brutal. Alors peut-être vous allez dire, « Oh, ben moi des fois je suis, alors je ne suis pas chrétien. » C'est pas ce que je veux dire. Ne comprenez pas à l'envers ce que j'exprime. Je veux simplement vous dire que le chrétien, le modèle du chrétien, il n'est pas violent, il n'est pas colérique, il n'est pas brutal. Amen. C'est l'homme nouveau. Et nous voulons ressembler à l'homme nouveau et moins ressembler à nous, le vieil homme. C'est vrai que nous avons été créés en Adam, mais nous avons été recréés en Jésus-Christ. Alléluia. L'homme adamique, c'est le vieil homme. L'homme christique, c'est le nouvel homme. Alléluia. Celui qui ressemble à Jésus. Je vous relis cette parole du temps de Noé. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voilà comment tu la feras, etc. La parole de Dieu nous dit qu'à l'époque de Noé, déjà la terre était remplie de violence. Alors, je disais que c'était de pire en pire, mais l'Écriture nous montre quand même que dans les temps d'autrefois, c'était pas forcément bien meilleur. Nous ne sommes pas nostalgiques du temps passé. L'Ecclésiaste dit, ne dis pas d'où vient-il que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. Car ce n'est pas la sagesse qui te fait dire cela. Amen. Quand Jésus dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, comme signe de la fin des temps, cela ne veut pas dire que cela n'existait pas avant. Il voulait certainement plutôt dire que sa venue n'avait pas pour but sa venue première d'arrêter les guerres et les bruits de guerre, mais qu'elles continueront jusqu'à sa seconde venue, où là, il mettra un terme à toutes ces choses. Quand on lit l'histoire de France, c'est un fleuve quasi ininterrompu de sang. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé l'eau du Nil en sang, parce que les Égyptiens étaient un peuple sanguinaire. Et ce n'est pas pour rien que ce signe est repris dans l'Apocalypse pour reprocher au monde d'avoir versé le sang des chrétiens. Vous voyez, Dieu fait boire du sang à ceux qui versent le sang. Celui qui utilisera l'épée périra par l'épée. La violence amène la violence. On a un pays outre-mer qui favorise les armes à feu pour se défendre. Y a-t-il pour autant moins de violence? La violence engendre la violence. La douceur engendre la paix. Amen. Oui, le contraire, c'est la brutalité, la violence, une terre remplie de violence. Jésus a dit que quand il reviendra, ça ressemblera, le temps où il reviendra, le temps de la fin, ressemblera au temps de Noé. Amen. Pourquoi est-ce que Israël a pu conquérir Canaan et exterminer les peuples cananéens? Et cela nous choque parfois. Bien parce que l'iniquité des Amoréens était arrivée à leur comble. Dieu a attendu. Et quand on connaît les pratiques de ces peuples, des pratiques horribles et très violentes, on comprend la colère de Dieu. Au temps de Noé, Dieu a été en colère à cause de cette violence. Dieu n'aime pas la violence. La colère de Dieu ne vient pas de sa violence. Dieu n'est pas violent. La colère de Dieu vient de son amour. C'est totalement différent de nous. Parfois, on est en colère parce qu'on est violent et méchant. Mais Dieu est bon. Et sa colère est l'expression de son amour bafoué, de sa saine jalousie. Nous, des fois, on a une jalousie mal placée, excessive, qui nous rend invivables pour l'autre. Et si quelqu'un est concerné, peut-être un frère ou une sœur dans son couple, toujours à suspecter, à imaginer, à reprocher, il faut arrêter ça. Cette jalousie-là, c'est la jalousie de la chair. C'est vouloir être propriétaire de l'autre, contrôler l'autre. Non, mais Dieu, quand il est en colère, parce qu'il aime et il ne supporte pas le mal dans sa sainteté. C'est difficile pour nous de comprendre la colère de Dieu parce qu'on part de cette mauvaise colère que nous vivons nous. Alors on imagine que puisque Dieu est en colère, Dieu est violent comme nous. Mais ça c'est faux. Dieu n'est pas violent. Dieu est amour. Dieu est bon. Et dans son amour du bien, parce que l'amour se réjouit, ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Quand son amour est bafoué par la pratique du mal et la violence, Dieu est sainement et saintement en colère. Sa colère est sainte, pas la nôtre. Mais je crois en la sainte colère de Dieu. Amen. Elle est l'expression de son amour. Oui, alors, je crois que ce qui va réjouir Dieu, c'est que nous soyons des non-violents. Amen. Dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, sur notre lieu de travail. D'ailleurs, Dieu aime tellement la paix que celui qui fait la paix, qui est artisan de paix, est appelé ou sera appelé enfant de Dieu. Alléluia. Et oui, alors, le contraire de la douceur, c'est la brutalité, la violence. La douceur a donc l'avantage du succès. Je reviens à notre texte. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ça marche, la douceur. Amen. La douceur a l'avantage du succès. Je ne sais pas si c'est comme cela que vous concevez votre promotion sociale. Parce que je crois que dans le monde, c'est plus tu vas jouer des coudes, plus tu vas faire le requin, plus tu monteras. Mais l'Écriture nous montre un autre chemin opposé. La douceur, ça va réussir. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Donc pas une promotion sociale, beaucoup plus. La terre. La terre. Mais c'est vrai, la douceur a l'avantage du succès, mais à long terme, pour l'avenir, ce verset est au futur. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Et nous, le problème, c'est qu'on veut un avantage ou un succès, une réussite immédiate. C'est l'ère de notre temps. Et nous apprenons de moins en moins à attendre. Mais Jésus n'est pas venu pour cette terre. Et de quelle terre s'agit-il dans ce passage? Car ils hériteront la terre. C'est celle d'Ésaïe, c'est celle de l'Apocalypse, c'est celle de la seconde épître de Pierre, c'est celle dans beaucoup d'autres livres de la Bible, c'est la terre nouvelle. Alléluia. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habitera. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas une espérance orientale. L'espérance orientale, c'est d'être un esprit dans le cosmos qui finira par fusionner et devenir Dieu. C'est le nirvana. Ça, c'est une espérance orientale. Mais la Bible nous montre une espérance matérialisée. 1 Corinthiens chapitre 15, un nouveau corps. Nous avons une espérance corporelle. L'Épître aux Romains nous dit, en attendant la rédemption de notre corps. Nous n'avons pas qu'une espérance mystique, mais nous avons une espérance corporelle, matérielle quelque part. Comme je le disais dans ma prière tout à l'heure, le Seigneur a dit qu'il boira à nouveau du vin avec nous. Et son nouveau corps, lors de la seconde pêche miraculeuse, savait manger à la fin de l'évangile selon Jean. on touche des choses qui nous dépassent. Mais je voudrais vous le dire, Dieu a prévu une nouvelle terre. Alléluia. Et un héritage merveilleux pour ceux qui se laisseront écraser maintenant. Pour les doux, pour les humbles, pour ceux qui n'essayeront pas de jouer des coudes, pour ceux qui n'essayeront pas de doubler l'autre, mais qui s'attendront au Seigneur. Alléluia. Et là, nous pourrons alors nous réjouir. N'est-il pas écrit dans le livre des Proverbes, avant d'être élevé, il faut savoir être humble. Amen. Alors, les premières années de ma vie chrétienne, voilà comment je le vivais. Seigneur, j'attends. J'attends que tu m'élèves. Mais c'était pour mes problèmes ici-bas. Seigneur, j'accepte. J'attends, je dis rien, je prie. Mais Seigneur, donne-moi raison quand même. finis par me donner raison. Et puis, il m'a fallu du temps, mais maintenant, j'ai mieux compris. Je ne dis pas tout compris, mieux compris. Avant d'être élevé dans la gloire, il faut savoir être humble tout au long de la vie sur la terre. Amen. C'est tellement mieux. Gloire à son nom. Je ne dis pas que sur la terre, parfois, Dieu nous justifiera. Bien sûr que oui. Mais notre attente n'est pas là. Notre attente. Et dans notre relèvement, résurrection. Amen. Notre relèvement d'entre les morts. Gloire à Dieu. Parce que toute la vie sur la terre est humiliation avec la mort qui est la fin, mais en même temps le summum de notre humiliation. Nous sommes poussière et Dieu nous le rappelle dans la mort. Nous retournons humiliés à la poussière. Mais Dieu nous glorifiera. Alléluia. Dieu, son nom soit béni. Dans le même sermon sur la montagne, allons au verset 43, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, 43. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mon beau-frère et qui me disait, « David, Alors, il avait peur de le dire, comme des fois, notre chrétien, on a peur de dire des choses qu'on a dans le cœur depuis parfois longtemps. David, je vais dire quelque chose, c'est peut-être pas bien, mais quand j'entends dire que dans le ciel, je vais louer Dieu pour l'éternité sans arrêt, ça me fait drôle. J'ai pas trop envie de vivre toujours comme ça. Eh bien, je crois effectivement que dans notre espérance, elle ne sera pas que céleste et adorer Dieu, mais nous aurons une vie d'après. Alléluia. Une vie éternelle. Dans une société éternelle, la nouvelle Jérusalem. Dieu soit béni. N'est-il pas écrit que celui qui aura été fidèle recevra la responsabilité de 5 villes ou de 10 villes? Enfin, tout cela, c'est peut-être à notre sujet, mais pour nous donner, de nous éclairer, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Cette expression hériter la terre, c'est pour nous donner un autre aspect de notre héritage, de notre vie éternelle, qui sera à la fois céleste et terrestre. Ce sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, qui seront réunis ensemble. Dont Éden n'était qu'une étape. On dit souvent que la gloire, ça sera de retrouver Éden. Personnellement, je pense que la gloire, ça sera plus qu'Éden. Mais Éden, déjà, on voit quand même qu'il y a entre le ciel et la terre réunion. Dieu se promène dans le jardin de l'homme. Alléluia. Le ciel et la terre étaient déjà réunis en Éden. Mais dans la gloire à venir, cette réunion, cette récapitulation en Jésus-Christ sera encore plus glorieuse. Amen. Alors, lisons Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors là, il faut faire attention. La Bible disait bien, tu aimeras ton prochain. Par contre, tu haïras ton ennemi. C'est ce que les rabbins de l'époque ajouté. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Puis on va aller au verset 38, vous voulez bien, juste avant. Vous avez appris qu'il a été dit, la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Je crois que c'est 2 kilomètres. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire le Seigneur ici? Je le formule de cette façon-là. Se laisser faire. Est-ce que ça vous plaît? Se laisser faire. Laissez-vous faire. Instinctivement, non. Je ne sais pas, il y a des réflexes, des vieux réflexes parfois. Quelqu'un me dit quelque chose et puis d'un coup, si vous étiez bagarreur, vous serrez le poing. Même que vous êtes chrétien, même depuis 10 ans, depuis 15 ans, vous serrez le poing. Et puis là, le Seigneur vous le montre, il dit « Oh, oh, ouvre ta main. » Eh oui, se laisser faire. Mais on a tout appris le contraire depuis le début de notre vie. C'était difficile, moi. J'ai vécu dans les mauvais quartiers à Roubaix. Se laisser faire, c'était ma mort. Et quand mes enfants me disaient « Papa, à l'école, on m'embête. » C'est difficile pour les parents chrétiens, pas les autres. Mais les parents chrétiens, c'est difficile. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je dois lui dire? Laisse-toi faire, mais alors c'est une catastrophe. Bagarre, mais pas trop. Que pour te défendre, alors on essaye de bidouiller quelque chose. Pas facile. Ah, peut-être que ce qui est peut-être mieux d'abord à nos enfants, c'est de dire, eh bien d'abord, tu sais, le Seigneur, on l'a battu. Tu peux d'abord te confier dans le Seigneur. Amen. Bon, après, on peut peut-être donner quelques conseils pratiques quand même, je ne dis pas le contraire, parce que quand on est enfant, c'est différent. Et il faut faire attention de ne pas être excessif. Mais pour nous, je dirais, se laisser faire. Est-ce que vous êtes d'accord de vous laisser faire avec vos collègues de travail? Laissez les autres gagner. Amen. Je ne sais pas si vous êtes mauvais perdant. Ah tiens, vous ne répondez pas. J'étais très mauvais perdant. On n'aime pas perdre. Parfois, on excelle. On excelle, mais pas pour le Seigneur. Pour notre orgueil, tout simplement. C'est un puissant moteur, l'orgueil. Et quand on est sanctifié de plus en plus, l'orgueil s'en va petit à petit. Mais il faut trouver d'autres ressorts. Parce que parfois, quand on n'a plus envie de gagner pour prouver quoi que ce soit, on n'a des fois même plus envie de jouer. Donc là, c'est un problème aussi. Il faut trouver d'autres raisons de continuer ce qu'on fait. Se battre fait partie de notre ancienne vie. Amen. Avant, à la limite même, j'avais des copains qui me disaient « Faut taper le premier !» C'est pas l'évangile, ça, quand même. Hein. En vous prêchant, je me rappelle de cela. « Faut taper le premier !» Il est out tout de suite. C'est pas du tout ce qu'on vient de lire, j'ai l'impression. Ah non. J'avais des amis qui tapaient sur les arbres dans la rue parce qu'ils faisaient, alors je sais plus comment ça s'appelle, la boxe thaïlandaise. Ils avaient des tibias plus durs que les arbres. Et ils s'entraînaient évidemment dans la rue pour bien montrer à tout le monde qu'il va, il fallait pas se frotter à eux. Mais vous savez, quand un jour dans une assemblée, il y a une prophétie. Tu as une arme dans ton tiroir. Le Seigneur te demande de la jeter. Dans cette église, personne ne le savait, effectivement, il y avait un chrétien qui avait un pistolet dans un tiroir chez lui. Oh, le Seigneur voit dans les tiroirs. Et vous savez, quand on met un pistolet chez soi, c'est pas la sécurité qu'on met dans la maison, c'est la peur. Quand on met un sabre, une arme, c'est la peur. Parce que combien d'enfants ont été tués par un parent la nuit? Parce qu'on a cru que c'était le voleur. Et puis même la femme va avoir peur si vous êtes violent. Et je ne vais pas le dire à mon mari. Si je lui dis, ça va partir en cacahuète. Alors la femme, elle n'est pas sécurisée. Elle garde tout pour elle. Et elle a peur. La Bible dit que celui qui est maître de lui est plus fort qu'une ville forte. Amen. Être violent et colérique, c'est de la faiblesse. Amen. Non, nous n'avons pas, nous n'avons plus à avoir peur. Amen. Avant, on avait peur. Si on n'avait pas le Seigneur. Alors on avait peur qu'on nous vole la voiture. Voilà. Bon, des fois quand un chrétien vient de s'acheter une voiture, il a encore un peu peur de ça, mais voilà. On avait peur qu'on nous vole la voiture. Oui, c'était notre vie, notre voiture. C'était toute notre vie, notre voiture. On a peur qu'on cambriole, on a peur qu'on attaque notre femme. On a plein de peurs. Vous avez vu aujourd'hui, le vocabulaire s'adapte à la vie des gens. Tous les phobies. Les noms de phobie, agoraphobie, etc. Phobie, phobie, phobie. Et à force de donner des étiquettes et des noms aux gens, on leur dit qu'ils sont malades, qu'ils sont comme ça, et ça va bien les aider à rester comme ça. Mais bon, nous, je crois que nous pouvons être dans la tranquillité. Amen. Nous n'avons plus à avoir peur. La violence vient plus qu'on ne le pense, de nos peurs et des peurs enfouies. Mais quand le Seigneur y prend nos vies en main, on peut lui faire confiance. Alléluia. Quand Jésus dit, donne ton autre joue, faut croire. Faut croire et dire, Seigneur, je me laisse faire, mais alors vraiment. Occupe-toi de moi. Si tu m'interdis de me défendre, défends-moi. Amen. Et c'est peut-être mieux que ce soit le Seigneur qui prenne nos vies en main. Alléluia. Parce qu'il fera bien les choses. Son nom soit béni. Je ne vois pas Jésus se battre. Non. On dit, on doit ressembler à Jésus. Je ne conçois pas que Jésus se batte. Amen. Je ne le conçois pas. Ah non. Dans ce passage, c'est même demandé d'accepter de bon cœur l'occupant romain. Pourquoi je dis ça? Quand Jésus dit ici de faire un mille avec celui qui est en force, j'ai lu une note dans une Bible, je vous la donne. Les soldats et les fonctionnaires romains avaient le droit de réquisitionner n'importe qui pour porter leur fardeau. C'est intéressant cette note. Alors pour le transposer dans notre culture à nous, imaginez qu'un pasteur, pendant la Seconde Guerre mondiale, dise aux chrétiens de son église, si un Bosch, vous demande de lui rendre un service, rendez-lui en deux. Là, je crois que ça aurait fait drôle dans l'assemblée. Mais c'est à peu de choses près, quelque part, ce que le Seigneur dit. L'envahisseur le conquérant. Et les Romains, vous savez, ils étaient brutaux aussi, hein, violents. Si l'envahisseur te dit, bon, toi, tu vas me porter un fardeau, de toute façon, tu es obligé de le faire, donc tout le monde le faisait, c'est tout, mais toi, tu ne vas pas le faire parce que tu es obligé. Si tu vas le faire deux fois plus, c'est que tu vas le faire de bon cœur. Alléluia. Eh oui, ça l'a fait réfléchir. Vous savez que ça peut faire du bien des fois. Vous avez peut-être, pour peut-être une certaine analogie, un supérieur brutal, violent à votre travail. Je me permets de vous proposer une petite solution. Le prochain ordre qu'il vous donnera, faites un peu plus que ce qu'il vous a demandé. Amen. Et là, vous allez me répondre, « Ah, mais non, si je fais ça, il va abuser, il va exagérer. » Ben, je ne pense pas. Moi, je pense que le Seigneur est avec toi si tu fais ce qu'il te demande. Alléluia. Dieu soit béni. Ça, moi, je le crois. C'est là où on voit que le mot douceur de tout à l'heure peut aussi vouloir dire docilité. Enfin, dans ce passage que nous venons de lire, il est quand même question de perdre de l'argent. Quelqu'un te demande la chemise, donne-lui aussi le manteau, le vêtement. Quelqu'un te demande d'emprunter, ou même quelqu'un te réclame de l'argent, donne. Donc il y a chemise, manteau, donner, prêter, et prêter à risque sous-entendu dans le passage. Quelqu'un demande de toi, ne refuse pas, parce qu'il y a des gens auprès de qui on peut plus facilement accepter, parce qu'on sait qu'on va récupérer l'argent. Par contre, il y a d'autres personnes, on sait que quand elles nous demandent de l'argent, ça a un fort risque de se transformer en don obligatoire. Et là, Jésus dit, donne, prête, laisse-toi dépouiller l'argent. L'argent. Alors notre intégrité physique, la joue, c'est l'instinct même de survie qui est touché. Et là, ici, c'est le porte-monnaie. Bon, je pense que le Seigneur a souvent parlé de ces choses. Alors là aussi, peut-être un conseil. Vous êtes en difficulté actuellement avec quelqu'un à propos d'argent. Laissez tomber. De toute façon, vous n'êtes pas malheureux. Vous savez encore vivre, même. Peut-être vous avez encore de côté. Ben, laissez tomber. Le Seigneur vous le demande, ça. On va se faire du mal pour de l'argent. La paix du Seigneur, elle n'a pas de prix. Amen. La visitation de l'Esprit, ça n'a pas de prix. Mais si à cause de réclamations d'argent, vous vous asséchez dans votre communion avec Dieu, Si devant le prud'homme, ça prend un an, deux ans, trois ans, il faut réfléchir avant d'attaquer son employeur quand même. Nous, chrétiens, déjà attaquer son employeur, c'est quelque chose devant Dieu. C'est pas rien. Parce que l'Écriture nous recommande plutôt la soumission. Déjà. Mais en plus, qu'on ne réfléchit pas, c'est tous les dégâts qu'il va y avoir pour réclamer notre argent. Ça va nous prendre nos pensées, notre temps, on va en discuter à la maison, on va être tenté par de l'aigreur parce que les autres, ils vont se défendre selon le monde et vous allez entendre des choses qui vont vous blesser. Oh, vaut mieux laisser tomber. Amen. L'argent ne vaut pas autant que cela. Oui, alors le Seigneur dit, ben, quelque part, de se laisser dépouiller. Il est dit, pourquoi le Seigneur parle comme ça? Il a dit qu'il était doux et humble de cœur. Il parlait de ces choses parce qu'il était comme ça. Alléluia. La bouche est l'expression du cœur. Chez Jésus, toujours. Il était doux de cœur. Nous, c'est ça qui nous manque. Parfois, on essaye d'être doux dans la vie. On n'est pas toujours doux dans le cœur. Et le plus important, c'est que le Seigneur travaille nos cœurs pour connaître cette douceur intérieure, cette disposition à la douceur, la modération, la docilité. Amen. Et alors, les choses seront différentes. On va aller dans un dernier passage, 1 Pierre chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2. Il fait chaud, je trouve, non? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Baissez un petit peu, peut-être? C'est possible? Merci. Moi, j'ai vite chaud, donc, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, 18. Oui. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Alors, on a vu ce que le Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne. Maintenant, on voit ce que Pierre nous demande de nous rappeler de lui dans ce qu'il a vécu lui-même face à la violence. Face à la violence, Jésus s'est laissé faire. Face à la brutalité, il n'a pas réagi. Jésus a eu trois comparutions. Une comparution devant un tribunal religieux, et deux comparutions devant des représentants de l'État pour une condamnation politique. Hérode s'en est défait, il est allé vers Pilate. Mais Jésus a comparu trois fois. Trois fois, il a été quelque part condamné. Mais ces trois comparutions ont un point commun, c'est son silence. Son silence. Pas un silence total, parce qu'à un moment donné, par exemple, quand le Sanhédrin, alors qu'il ne disait rien, lui a sommé de dire quelque chose, il a déclaré qu'il était effectivement le Fils de Dieu. La seule parole qu'il a dite, c'était celle qui leur permettait de le condamner. Et ainsi s'accomplit ce qu'il venait de dire, « C'est pas vous qui me prenez la vie, je vous la donne. » Et dans cette comparution devant le Sanhédrin, il a donné sa vie en donnant, par la seule parole qu'il a prononcée, suffisamment de choses pour qu'il le condamne. Mais il a été globalement très silencieux. Même Pilate, à un moment donné, il dit « C'est à moi que tu ne réponds pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de ta vie ?» Et c'est là que Jésus lui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'était donné d'en haut. » Bon. Nous, on le lit facilement, mais il venait d'être fouetté, d'être tapé, d'être craché dessus. Et vous savez, nous, comment on est, même quand on est un peu malade, enfin, moi, je suis un mauvais malade, mais peut-être pas tout le monde. Quand on est un peu malade, on est plus à cran quand même. Et quand on souffre comme ça, mais dans son contexte, et puis il venait de passer une nuit blanche. Ça s'est passé toute la nuit. Il était d'ailleurs tellement épuisé, même avant la nuit blanche, la veille au soir, il a sué des grumeaux et du sang. Donc le frère peut-être saura mieux que moi, mais j'ai lu une fois un article où il est dit que c'est dans des cas extrêmes, c'est possible à cause d'une souffrance particulière. Donc ça veut déjà dire qu'il était épuisé avant cette nuit blanche. Et sur la croix, il est mort avant les autres. Pourquoi d'après vous? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que Jésus n'a pas voulu prolonger sa vie parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Beaucoup de gens veulent aller, veulent résister parce qu'ils ont la trouille de mourir. Jésus, à un moment donné, il lâche un grand cri et il part. Jésus n'a pas eu peur de mourir. Alléluia. Alors ça n'a pas traîné comme les autres. C'est une première explication. Mais la seconde explication, c'est aussi que son corps était bien abîmé, bien épuisé. Et il allait mourir plus vite. Donc il était dans un état difficile physiquement. Mais pourtant, il a enduré la croix. C'est le Seigneur. Quand on réfléchit à ça, on se dit, Seigneur, je suis loin de toi. Change-moi. Amen. Et dans ces procès, jamais énervé contre personne, tous ces mots étaient comptés. Sur la croix, sept paroles. Sept paroles. Mais les voyous vociféraient, on le voit d'ailleurs à côté. Mais les brigands sur la croix, c'est vrai que les gens, ils en profitaient en bas, mais en haut, ils les insultaient. C'était sept paroles. Quelque part, Jésus sur la croix est mort silencieusement. Alléluia. Quel exemple de douceur, de docilité. Dans nos souffrances, n'oublions pas celui qui a souffert l'injustice pour nous. C'est le sens de ce texte, Pierre dit. Il nous appelle à souffrir l'injustice et il l'explique parce que Jésus a souffert pour nos péchés et pour lui aussi c'était injuste ça. Alors quand des fois en tant que chrétien on se dit non mais ça c'est pas juste. Ben c'était pas juste qu'il aille à la croix pour toi non plus. Et ce texte est très fort. Pierre dit que si on souffre parce que c'est juste, il n'y a pas de mérite. Mais que si on souffre parce que c'est injuste, c'est une grâce devant Dieu. Parce qu'on fait comme Jésus a fait pour nous. Il a souffert injustement pour porter nos péchés. Et afin même, le texte se termine par « pour que nous soyons guéris ». Alléluia. Jésus a porté injustement nos fautes pour nous guérir. Alors il demande, Pierre, nous aussi, de souffrir injustement pour les autres, et j'ose peut-être dire, pourquoi pas, afin aussi de les guérir. Amen. Comment on va gagner des âmes? En se laissant faire. Et là, elles vont être touchées. Et le Seigneur va les guérir parce qu'elles vont se convertir. Alléluia, Dieu soit béni. C'est le même chemin. Jésus, sur la croix, n'est pas seulement mort pour nous, mais il est mort en exemple. Amen, en exemple. On termine avec Ésaïe 42, versets 1 à 4. Et après, Frédéric, si vous voulez bien, on chantera ensemble. Ésaïe 42, verset 1er. Ésaïe 42. Ça sera le dernier passage sur notre Seigneur. Ésaïe 42, verset 1er. Voici mon serviteur. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Amen. On termine avec cette prophétie. J'ai mis mon esprit. Il annoncera la justice. Et il y a une traduction au verset 2 qui rajoute cette petite particule. Mais il ne criera point. comme pour nous montrer que le Messie qui allait venir et faire justice, établir la justice annoncée, peut être traduit tout autant, et ça l'a été fait dans d'autres traductions, par établir la justice. Le Messie qui allait établir la justice ne serait pas pour autant brutal ou violent. Il ne criera pas. Amen. Il n'hurlera pas. Il ne brisera pas. Il n'éteindra pas. Il sera doux. Il sera humble. Mais pour autant, il établira la vérité, la justice. Il sera fort. Une traduction dit, il ne faiblira pas. Alléluia. La douceur, l'humilité, c'est pas de la faiblesse. Même si c'est vrai que des fois, quand on se ramasse quelque chose et qu'on donne l'autre joue, même et quand on a l'air d'être des perdants, et c'est ça qu'on n'aime pas. On passe pour des faibles, et ça, on n'aime pas. Mais c'est pas vrai. Quand on est doux et qu'on est humble, comme le Seigneur l'a été, on peut aussi être persévérant, être fort. Amen. D'ailleurs, moi, je constate qu'en général, quand on est de caractère plutôt colérique ou impulsif, on a aussi tendance à vite se décourager. Et quelque part, il y a une certaine logique. Quelqu'un qui est sanguin, ben, il fait le yo-yo dans son caractère. Mais quelqu'un qui est sanguin, souvent, il fait aussi le yo-yo face aux difficultés de la vie. Il se décourage très facilement. Et ici, celui qui ne criera pas, qui ne brisera pas, qui n'éteindra pas, c'est celui qui sera fort jusqu'au bout, jusqu'à l'établissement de la justice sur la nouvelle terre. Alléluia, Dieu soit béni. Il est encore en train d'être fort, parce que ce verset n'est pas terminé. Il établira la justice sur la terre, ce n'est pas encore fait. Quand il reviendra, ça se fera. Jésus est encore fort, quoiqu'encore aujourd'hui, il soit méprisé. Et il est humble, parce qu'aujourd'hui, il est caché. Nous ne voyons pas qu'il règne. Il viendra dans sa gloire, mais pour le moment, il est couronné de gloire et d'honneur dans le ciel, mais caché de tous. C'est parallèle avec la vie de David. David a eu une période où il était roi, humilié, pourchassé par Saül, et roi glorifié à Jérusalem. Vous voyez, Jésus sera glorifié à la nouvelle Jérusalem. Amen. En attendant, il est caché. Il continue d'être doux et humble, mais d'être fort. Et c'est lui qui triomphera. Amen. Alors voilà, quelques rappels sur le besoin pour nous, je crois, de nous laisser faire, de faire confiance à Dieu et d'apprendre à ne pas se décourager, mais dans cette docilité et cette douceur de persévérer. Amen. Dans la vie avec Dieu. Que Dieu nous bénisse.